Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve tout à l'heure, comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Rancin et Marc Alias, directeur d'établissements médico-sociaux pour l'ALGEI. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Bonjour Jean-Philippe, merci pour l'invitation.
Bonjour, on va très bien.
Très bien. Eh bien on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir nos invités et puis les structures qu'ils animent et leur cause qu'ils défendent. On va d'abord écouter le flash info national et international, ça va pas être très marrant, mais on se retrouve après, rassurez-vous, à tout de suite. Et nous voilà de retour avec Thomas Rancin et Marc Alias, donc de l'ALGEI. Donc, comme je vous disais, les infos, c'est pas toujours très marrant. Mmh. C'est vrai que les médias, des fois, on leur reproche le tort de focaliser les choses négatives. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de choses qui sont peut-être positives, compliquées, mais en tout cas, des moyens que des gens trouvent à essayer d'arranger les choses, dont vous faites partie. C'est pour ça, messieurs, que cette émission commence en général par une petite trajectoire personnelle où les invités nous évoquent un petit peu leur parcours qui fait qu'ils sont aujourd'hui à ce micro. Qui est-ce qui se lance en premier ?
Comme tu veux, j'y vais. Ouais. Allez. Donc c'est Marc Alias qui parle. Donc je suis actuellement directeur d'établissements médico-sociaux. Mon parcours, c'est que j'ai commencé en tant qu'éducateur sportif. J'étais embauché par à l'époque c'était la direction départementale de la jeunesse et des sports, mmh. qui me mettait à disposition d'établissements pour leur faire un petit peu de sport. Et à un moment donné, je suis intervenu sur une MEX. Et là, le directeur, comme il y avait une absence, m'a proposé de prendre un poste et de me former en tant que moniteur éducateur. Mmh. Donc je suis rentré, j'ai vraiment un parcours assez linéaire dans le secteur. Je suis rentré en tant que moniteur éducateur dans cette MEX. Après, très vite, ils m'ont formé en tant qu'éducateur spécialisé. Mmh. Et ensuite, j'ai évolué, j'ai fait une formation CAFERUIS qui me permettait d'être chef de service. Là, j'avais été embauché par l'association actuelle, l'ALGEI, en tant que chef de service. Et ensuite, j'ai passé un Master 2 de gestion d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Et donc, j'ai eu un poste de directeur dans l'ALGEI et qui m'a permis aussi ensuite d'avoir un poste de directeur de pôle des Landes qui me permettait de gérer plusieurs établissements, ce que je fais actuellement.
D'accord. On va en profiter pour préciser un petit peu les acronymes, comme je disais, parce que MEX, donc c'est pas une association de garçons, c'est faut dire ce que c'est la maison d'enfants à caractère social. La GEI, c'est l'association laïque de gestion d'établissements d'éducation et d'insertion. Voilà, c'est comme ça. Une fois que c'est dit, c'est bon, on pourra utiliser les acronymes, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et ensuite, c'est au tour de Thomas de nous parler un petit peu de sa trajectoire.
Alors moi, je suis infirmier de formation. Alors avant d'avoir été infirmier, j'ai commencé un emploi jeune de l'époque comme brancardier à l'hôpital.
Ah oui.
Et ensuite, j'ai passé le concours d'infirmier. J'ai été infirmier en psychiatrie pendant 15 ans sur l'hôpital psychiatrique Montois à Sainte-Anne. Mmh. Et aussi sur les services somatiques à l'AINÉ. Mmh. J'ai ensuite passé le diplôme de cadre de santé. Donc j'ai été cadre de santé en psychiatrie et aux urgences générales de l'hôpital de Mont-de-Marsan. J'ai ensuite été... J'ai eu aussi un Master 2 quand j'ai passé mon diplôme de cadre de santé. J'ai eu un Master 2 même type que Marc, qui m'a permis d'accéder à un poste de direction. J'ai été directeur des services à l'UDAF des Landes, donc l'Union départementale des associations familiales. Mmh. Et ensuite, j'ai intégré l'ALGEI comme directeur adjoint, puis directeur de la maison d'enfants à caractère social de Grenade-sur-Adour.
D'accord.
Et ensuite, j'ai ouvert la Maison Landaise des Adolescents, dont on parlera tout à l'heure. Et je suis aussi directeur ressources territoriales pour les Landes, pour l'ALGEI.
Voilà, très bien. Bon, alors cet entretien se passe très bien. Vos CV sont intéressants. On va peut-être vous retenir.
Merci.
Non, mais bon, c'est toujours intéressant de connaître un peu la trajectoire des gens, parce que des fois, il y a une action surprenante, une action linéaire qui sont logiques avec une progression par formation, comme vous avez évoqué. Donc, c'est un milieu que les gens ne connaissent pas forcément. Tiens, d'ailleurs, je donne à Thomas, infirmier en milieu psychiatrique pendant 15 ans. Alors, des fois aussi, on se fait des idées. On se dit toujours, ouais, ça doit être super dur. Est-ce que c'est super dur ? Je veux dire, comment ça se vit parce qu'on a toujours dit, oh, le contact avec des gens qui sont complètement barrés, entre guillemets. C'est quoi cette vie-là?
Alors, infirmier, on choisit, c'est un choix de travailler en psychiatrie, comme c'est un choix de travailler avec les personnes âgées, avec les personnes en situation de handicap, avec, avec les enfants. Voilà, c'est vraiment un choix. C'est difficile, mais comme le reste du travail infirmier, hein, de toute façon, infirmier, c'est, on le sait, c'est pas un métier simple, c'est un métier exigeant, et avec évidemment des contraintes, mais qui est aussi valorisant personnellement, à mon sens. Et c'est intéressant de travailler, ça m'a toujours intéressé pour ma part de travailler en psychiatrie. Voilà, mais encore une fois, c'est vraiment un choix, et il faut pas le faire par défaut.
Ah bah non, sinon ça serait une corvée insupportable. Sinon, bon, après, non, la partie tout ce qui touche à l'esprit, hein, fait un petit peu peur aux gens quand on n'est pas, parce que autant la mécanique, la biomécanique, hein, les os, la chair, la viande, le sang, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une chose, hein, mais l'esprit fait un peu peur. Même, je pense qu'on a des fois un peu peur de devoir faire une introspection qu'on n'a pas forcément envie de faire par rapport à certains problèmes, hein. Donc bon, là en tout cas, la question là, c'est vraiment on va en parler, hein, de ce que fait votre association, hein. Alors on va faire une petite présentation de l'association elle-même, c'est Algei, qu'est-ce que c'est, puis ça existe depuis pas mal de temps d'après ce que j'ai vu, et ça concerne aussi pas mal de gens, vraiment beaucoup. Alors ça existe depuis quoi, les années 50, c'est ça?
Oui, alors les années 50, alors initialement c'était la Ligue de l'enseignement, qui s'est dissociée. La Ligue de l'enseignement, eux, ont pris tout ce qui est immobilier, et l'Algei, de son côté, a accompagné tout le médico-social. Donc de cette séparation-là, on a eu toute une dynamique qui s'est mise en place avec l'ouverture de beaucoup d'établissements dans le Lot-et-Garonne, et il n'y avait qu'un seul établissement dans les Landes, à l'ITMX, qui dépendait de l'Algei. Et progressivement, avec Thomas et moi-même, on a progressivement ouvert d'autres établissements sur le territoire landais, quoi.
Alors c'est quoi le travail exactement, la fonction de votre association? Vous gérez des établissements et des projets qui sont en lien avec des jeunes, hein, essentiellement, on va dire, hein, qui ont des problèmes de la sphère autistique ou psychologique.
Alors, pas que des jeunes. C'est l'association a 38 établissements et services. On a 1000 salariés environ. On accompagne 4000 personnes environ. Ce sont des personnes, on va partir de l'enfance jusqu'au grand âge, puisque on balaye un petit peu chaque âge de la vie, avec des établissements sociaux, médico-sociaux,
spécialisés,
effectivement, sur initialement tout le territoire, donc comme disait Marc, du Lot-et-Garonne, hein, c'est essentiellement implanté dans le Lot-et-Garonne, le siège est à Estillac, à Agen, mais effectivement d'autres établissements qui se créent dans les Landes, parce qu'il y a des besoins et qu'on se positionne sur les demandes et sur les projets qui sont portés par le département, par le conseil départemental et l'ARS.
Oui.
Oui, quand vous parlez du nombre de salariés, l'important de la structure, etc., on se pose la première question, c'est quel est le modèle économique, d'où vient l'argent qui vous permet de fonctionner? Oui, c'est toujours le sujet délicat, mais c'est vrai que ça fait partie des rouages.
Merci. Moi, je vais prendre mon exemple parce que ça va définir nos tarificateurs. Alors moi, je suis directeur d'un établissement, par exemple, sur l'ITMX, où il y a le foyer de vie qui accompagne 50 personnes. Ce foyer de vie, il est financé par une dotation par le conseil départemental. Et ensuite, j'ai deux femmes, foyer d'accueil médicalisé, perte d'autonomie, et une femme pour les personnes autistes. Et ça, c'est financé en double tarification. Il y a une dotation qui est apportée par le conseil départemental et une dotation qui est apportée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour le sigle.
Oui.
Voilà. Okay. Donc, ils nous donnent des dotations. Ces dotations nous permettent de faire fonctionner l'établissement, hein, avec tout ce qui est fonctionnel, le bâti et le plateau technique.
Vous êtes, le statut, c'est quoi ? C'est délégation service public, utilité publique ? C'est quoi la dénomination de...
Nous, on est c'est une association, hein, la JUI, c'est une association d'utilité publique.
Utilité publique, hein,
voilà, qui fonctionne par la tarification du conseil départemental et de l'ARS.
Donc, vous n'êtes pas le genre d'association qui reçoit des dons, par exemple ?
Non.
Ça fait pas partie vous êtes vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, vous remplissez une fonction aussi, comme beaucoup d'associations, c'est pour ça c'est toujours intéressant d'en parler, qui, vu de l'extérieur, on se dit bah, c'est une émanation d'État, ça fait partie d'un ministère. Ben non, en fait, c'est une association, mais qui remplit une tâche qui est tellement importante qu'en fin de compte, l'État lui donne des sous et dit bah, faites notre job parce que nous, on ne va pas pouvoir le faire à votre place. Hein.
Oui, c'est un peu ça. On a des orientations, hein, entendu, mais avec des arrêtés, mais oui, on est financé par l'État, quoi. Par l'État et le conseil départemental, quoi, le territoire.
Bien sûr. Bref, c'est déjà le moment de faire une petite pause, une petite musique. J'espère que mon collègue David écoute sa radio en ce moment. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Allez, c'était Stevie Wonder, Happy Birthday. Eh oui, parce que c'est l'anniversaire de notre cher David Labatte aujourd'hui. Et donc, ça s'arrose quand même. Donc, il fallait signaler. C'est l'anniversaire de tas de personnes aussi. Mais de notre cher David, que vous entendez tous les jours, ben voilà, aujourd'hui, il fête ses 8 ans. On ne dit pas, c'est un chiffre indéterminé, 8 ans, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on va retourner avec nos invités, Thomas et Marc. Donc, on parlait de cette association, de sa structure, et donc défendre des dispositifs et des choses particulières. On va détailler tout ça un petit peu ensemble.
Oui, on souhaite un bon anniversaire à David aussi, évidemment.
Voilà.
alors, on peut parler, pour la LGUI, d'une opération nationale, le DUOD. Qui a été à l'initiative de l'association et depuis 2000, ça va faire la 10e année, donc ce qui permet de mettre en relation des entreprises et des personnes en situation de handicap sur une journée précise. Là, sur la dernière édition, on était à plus de 35 000 personnes, plus de 35 000 duos formés, ce qui est un chiffre qui est important au niveau national et qui a permis évidemment de débloquer des situations pour les personnes en situation de handicap qui ont pu accéder à des stages, à des CDD, des périodes d'essai. Donc c'est une opération importante pour l'association et qui est donc chaque année qui montre aussi qu'il y a avec l'augmentation du nombre de duos formés que les entreprises se mobilisent aussi et s'inscrivent dans l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Donc et après c'est un gros travail aussi sur l'association évidemment, puisqu'il y a un nombre d'appels très très important à gérer.
Et oui. Alors duo, ça veut dire duo entre un valide et un handicapé, c'est ça, hein ?
Non. Oui.
Duo entre une entreprise et une personne en situation de handicap.
D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un modèle économique. Enfin, il y a une législation qui a été construite aussi pour un petit peu contraindre les entreprises, sinon pas un certain taux de personnes en situation de handicap, d'avoir une petite pénalité. Donc, c'est un petit peu pour leur rappeler un petit peu. Ça aide aussi peut-être. Je pense à ici. FMS, donc très connu dans la région, qui en a fait son modèle économique, sa manière de fonctionner, qui permet aussi d'utiliser ce levier-là pour faire intégrer des personnes en situation de handicap. Ça, c'est, voilà, on râle des fois contre l'histoire de quotas et tout, mais ça a quand même un impact direct dans la réalité. Hein.
Complètement.
Tout à fait.
Il y a un autre dispositif qui est porté par l'ALGEI et qui a un aura au niveau national, c'est le CAPAS. Donc c'est un outil qui permet à des professionnels de pouvoir accompagner des jeunes, on va l'évoquer après, des jeunes autistes sur l'accompagnement aux soins. Donc c'est une mallette où il y a tout dedans, où ça permet aux familles, aux professionnels, même à des praticiennes, bien de pouvoir s'en saisir pour faciliter l'accès aux soins des personnes autistes. Parce qu'il y a une certaine appréhension par rapport à... On parlait tout à l'heure des dentistes.
Oui.
Nous, on en a déjà peur. Alors, imaginez quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a, lui, pourquoi il a mal aux dents et qu'est-ce que cet homme en blanc va venir me faire dans la bouche. Voilà, c'est des choses que nous, on prépare en amont pour qu'une fois qu'il est sur ce rendez-vous-là, on puisse faire un accompagnement plus paisible, quoi. Oui, voilà, pour tout le monde, même pour le praticien.
C'est vrai que cet exemple est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'y passe pas forcément, mais effectivement, ces moments-là sont peut-être plus compliqués à faire vivre à une personne qui a un trou dans son cerveau, entre guillemets, dans la compréhension, la manière d'appréhender les choses. Il peut être en panique totale, ça peut être super difficile de lui faire accepter et comprendre. Oui, c'est forcément plus dur qu'un gamin, entre guillemets, qui n'a pas de problème particulier. Déjà, c'est pas évident.
C'est pas évident.
C'est normal. Un adulte aussi, d'ailleurs. Oui. Hein. Mais là, oui, c'est vrai, là, c'est les problématiques au quotidien qu'on n'envisage pas forcément quand on n'est pas confronté directement à ce genre de problématiques. Hein.
Oui. Donc, du coup, effectivement, si ça peut intéresser des associations ou autres, l'Algivan, ces mallettes-là, il y a beaucoup de mallettes qui ont été données à des familles pour qu'elles puissent s'en saisir, qui sont en difficulté avec tout ça. Donc, il y a des actions qui se font aussi au niveau du fait qu'on peut accéder à la mallette sans pouvoir l'acheter aussi.
Et oui, ça peut aider les aidants.
Exactement.
Et parce que aussi, il se trouve dans cette situation. Comment est-ce que je vais faire passer la pilule à mon gamin qui a un problème? Ça où là? J'y pense pas forcément ça. C'est d'en parler. J'imagine effectivement les problèmes qu'il faut gérer. Alors, vous avez plein de lieux. Hein, vous avez des lieux avec des projets qui sont rattachés. On va un petit peu en parler. Alors, vous parliez tout à l'heure des MEX. Donc il y a quelque chose dans le pays grenadois, à Grenade ?
Exactement. Depuis janvier 2024, on a ouvert une maison d'enfants à caractère social spécifique, double vulnérabilité, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont placés, donc pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et qui ont un handicap psychique. Donc on a... à l'ouverture, on avait 16 places, donc on a deux sites à Grenade-sur-Adour. On a porté l'effectif à 20, puisqu'on a ouvert aussi 4 appartements sur Mont-de-Marsan de semi-autonomie pour ces jeunes. Et là, on est sur un projet d'extension de 8 autres places pour une tranche d'âge inférieure. La tranche d'âge actuelle est 11-21 ans. Mmh. Et on serait sur une tranche d'âge inférieure de 6-11 ans.
Oui.
Donc on est en train de travailler ce projet-là. Qui devrait aboutir assez rapidement et qui sera probablement sur Mont-de-Marsan également.
Alors un projet avec des gens qui ont ce genre de troubles bien plus jeunes, donc la semi-autonomie, voilà. Alors comment est-ce qu'on gère tout ça? Ça veut dire que déjà techniquement il faut du personnel, des gens qui sont présents pour encadrer un peu ça, et puis voilà, c'est assez technique quand même, ça demande pas mal de ressources et de finances, ce genre de dispositif, j'imagine.
Oui, on a un plateau technique qui est important, évidemment. Alors le financement initial, c'était purement conseil départemental sur les 20 places actuelles. Sur l'extension, on travaille sur un double financement, conseil départemental et agence régionale de santé, puisqu'on aura des soignants qui accompagneront ces jeunes.
Et oui, forcément. Parce qu'il faut bien être là pour, j'imagine même pendant la nuit, des systèmes, je ne sais pas, de gardiennage. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Ils sont là juste en deux jours ou est-ce qu'ils résident aussi la nuit?
Non, c'est leur domicile,
c'est leur domicile,
leur maison. Ouais. Donc il y a un accompagnement de H24 et 365 jours par an. Il n'y a pas de période de fermeture.
Hein. Ouais.
Donc ils sont comme chez eux. Hein. C'est leur domicile.
C'est un internat, on va dire, un peu, parce que les parents, les aidants et les parents adultes, parce qu'on parle de mineurs, comment ça se passe pour ça? Ils viennent les voir tous les jours, ils sont pas loin, comment ça fonctionne?
Alors, ça dépend des... on a un petit peu toutes les situations, et ça dépend du juge des enfants, aussi, du type de placement, des autorisations qui sont données aux parents, ou pas, que ce soit des appels médiatisés, des visites médiatisées, ou des droits de recevoir leurs enfants chez eux, ou pas. Enfin, ouais, il y a plusieurs situations.
Ouais, c'est là qu'on commence à percevoir un petit peu, comment dire, la technicité et la complexité de votre tâche, hein, parce que vous devez gérer des tas de choses et puis des tas d'aspects législatifs, et vous devez bien avoir une vision des une vision des rouages de l'administration qui fait un peu peur des fois. Hein. Enfin bon, après, ce sont des outils aussi, hein, c'est pas que des contraintes. Hein, mais c'est vrai qu'on imagine, vous êtes les mains dans le cambouis là quand même, hein, pour ça, faire tourner tout ça.
Et après, on travaille en étroite collaboration et en toute transparence avec l'aide sociale à l'enfance. Hein. On a des liens quotidien avec les services qui permettent de faire avancer les situations, les dossiers et puis les projets de vie de ces enfants.
Oui. Alors on va détailler tout ça un petit peu. On va parler aussi là de TSA, etc. C'est le moment de faire une autre pause. On va écouter un petit peu de musique et le flash info local ce coup-ci. Et on se retrouve ensuite. Nous voilà de retour avec Thomas Roncin et Marc Alias, donc de l'association laïque de gestion d'établissements d'éducation et d'insertion. On est en train de parler, Thomas, de vos dispositifs. On va continuer sur ça.
Oui, alors on va parler du deuxième dispositif qui est la maison landaise des adolescents qui a ouvert en février de cette année. Donc qui est un dispositif départemental qui, on va dire le siège ou les locaux principaux se trouvent à Mont-de-Marsan en face des Arènes, boulevard de la République. C'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 11 à 25 ans. Qui permet, on va dire que l'idée du dispositif, c'est d'offrir un guichet unique à ces jeunes qui peuvent venir avec ou sans rendez-vous, qui est aussi à destination des parents, des familles, des proches et des professionnels. Ça a vraiment vocation à être un lieu ressource pour les jeunes et une plateforme d'appui pour les professionnels. Et on va balayer tout le champ de l'adolescence, c'est très généraliste. On va évaluer la situation et orienter vers des partenaires qui disposent de l'expertise pour prendre en charge et accompagner les jeunes dans l'intégralité de leurs besoins. On va passer de ça peut être de l'accès au droit, de la santé mentale. C'est très 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 vaste et très généraliste.
Un petit peu comme un planning familial, mais pour les ados, pour des questions qui ne sont pas en rapport avec la contraception, etc.
C'est toute question. C'est pas forcément, d'ailleurs, c'est très bien de souligner, et merci Jean-Philippe, c'est pas forcément un problème. Hein. Ça peut être juste une question.
Oui.
C'est pas forcément une difficulté. Hein. C'est vraiment être ressource pour les jeunes. Et on essaie, les maisons des adolescents sont des dispositifs nationaux. Hein. Il y en a une par département, avec un cahier des charges national. On essaie là actuellement donc de mailler un peu le territoire, même si c'est compliqué du fait de la géographie de notre département qui est très vaste et peu dense par endroit, mais on a des antennes sur tout le département et on est présent à Parentis, à Labouère, à Roquefort, à Morsinx, à Dax, à Tyros, à Saint-Vincent-Tyros, à Aire-sur-Adour et à Jettemau. Donc une demi-journée par semaine. On est ouvert aussi le samedi matin donc sur Mont-de-Marsan, que sur Mont-de-Marsan évidemment, mais on peut répondre aussi aux appels téléphoniques pour fixer des rendez-vous. On a une équipe pluridisciplinaire, on a des infirmiers, des éducs spécialisés, psychologues et un médecin coordinateur qui est pédopsychiatre, mais qui ne fait pas de consultation.
Oui.
On ne fait pas de suivi à proprement parler.
Vous orientez
On oriente, par contre, on évite les ruptures, c'est-à-dire que si un jeune a besoin d'être suivi, le temps qu'il soit pris en charge par le partenaire, ça, on va répondre à cette demande-là. L'idée est de fluidifier les parcours, d'éviter les ruptures et d'avoir un agenda de partenaires exhaustif. Donc ça prend beaucoup de temps. On est encore sur la cartographie du département parce que y a énormément d'acteurs.
Et oui.
On peut aussi mener des actions de prévention, de sensibilisation. C'est tous ces objectifs-là et toutes ces missions pour la maison des adolescents.
Très bien, c'est bien d'en parler. Comme ça, des adolescents qui nous attendent, ils vont peut-être dire, tiens, j'ai un problème ou une simple question, effectivement, une interrogation. C'est vrai, il y a les endroits comme les missions locales aussi, où des fois les jeunes ils se présentent quand ils ont des projets ou des choses à discuter. Donc il y a des dispositifs qui sont un peu... en tant que boomer, je pense toujours à problèmes, les jeunes, enfin vous savez ce que c'est les vieux, hein, vous savez comment on est. Mais c'est vrai que vous parlez des problèmes psychologiques, c'est vrai qu'on parle beaucoup ces temps-ci de problèmes psychologiques pour les jeunes, hein, parce que plus l'avenir est noir, plus le présent est compliqué. Hein. Je crois que ça vous avez dû vous rendre compte de peut-être que une forme d'anxiété dans une certaine couche de la population par rapport à tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire.
Alors, le motif de recours principal hein, sur la maison des adolescents, ouais. C'est très souvent la santé mentale, bien évidemment, voilà. Avec évidemment hein, de l'anxiété, des inquiétudes, mais des questionnements. Mais on essaie évidemment de dissocier ce qui relève vraiment de la psychiatrie,
oui, bien sûr,
ouais. Et de questions d'adolescents. Mm-hmm. Voilà, lambda sans vraiment de ouais, on va pas psychiatriser on non, va non, dire, voilà. Toutes les situations.
C'est normal d'avoir des inquiétudes. Ouais, c'est
l'idée
normal.
C'est de pouvoir échanger, et de, sûr, voilà, ouais. D'évaluer de manière pertinente pour orienter les jeunes vers le bon partenaire.
Ouais, très bien.
Après, pour être plus précis, on a la maison landaise des adolescents et le point accueil écoute jeune. Donc, c'est un autre dispositif qui est porté par la caisse d'allocation familiale et qui nous permet d'avoir un financement aussi supplémentaire et d'avoir plus de personnel. Donc, on porte les deux dispositifs, mais c'est transparent, c'est une deuxième porte d'entrée pour les usagers, mais c'est transparent pour eux, hein, que ce soit les jeunes, les familles ou les professionnels.
Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, Thomas, vous nous parlez un petit peu de ces dispositifs.
Alors Marc, plutôt.
Marc, pardon.
Oui, je vais vous en parler.
Oui.
Je vais vous parler plutôt d'un dispositif là innovant, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé du foyer de vie de l'ITMX. C'est des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap depuis très longtemps. Et là, suite à un appel à projet du conseil départemental et de l'ARS, on a ouvert un nouveau dispositif qui s'appellera, puisque le campus va ouvrir en 2029, Chacun sa vie, chacun sa réussite.
Oui.
Alors c'est un dispositif, chacun sa vie, chacun sa réussite, qui est porté par le conseil départemental et l'ARS, qui permet d'accompagner des jeunes autistes, alors c'est TSA, trouble du spectre de l'autisme, sur une tranche d'âge, 15-25 ans, et en rupture avec tout type d'accompagnement.
Oui.
C'est quelque chose qui a été quand même repéré sur les MLPH, des choses comme ça, qui font qu'il y a une sensibilité sur cette période-là et sur le fait qu'ils n'ont pas d'accompagnement, qui fait qu'après c'est compliqué de les accompagner.
Et oui.
Donc ça a été ciblé sur ça. Et fort de ces constats-là, il y a un projet qui va ouvrir ses portes, qui s'appelle le campus, normalement en 2029 sur la plaine des Jeux à Mont-de-Marsan, qui va accompagner donc 10 jeunes sur des maisons, des petites maisons, et 5 jeunes sur appartement. Alors ça, en attendant que ce campus ouvre, on a déjà ouvert un SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Ce SAMSA accompagne 10 jeunes pour les préparer justement soit à une inclusion sociale et professionnelle, soit à intégrer ce campus, ces maisons où on va faire des apprentissages avec les jeunes. Mais là aussi, en attendant que ce campus ouvre, on a ouvert une maison qui accueille déjà 5 jeunes pour permettre... commencer à faire ces apprentissages-là et permettre aussi l'inclusion de ces jeunes dans la cité. Donc les maisons, elles sont vraiment dans Mont-de-Marsan.
Oui.
Et c'est vraiment un caractère familial. Alors, il y a un plateau technique qui accompagne, mais on a une maîtresse de maison. Ça veut dire que les jeunes vont se faire à manger avec la maîtresse de maison, vont faire les courses, vont faire des apprentissages à la cuisine, des choses comme ça, quoi. Voilà tout ce qui est un petit peu le projet innovant. Pour parler du conseil départemental, de l'ARS et de la MLPH, il faut dire que sur les Landes, ils sont très mobilisés sur l'autisme, puisqu'on a 2 journées dédiées à l'autisme en avril. Et donc là, on fait un appel parce que c'est des journées où on va faire des tables rondes, on va parler d'autisme, il y a des conférences, et on souhaiterait bien évidemment qu'il y ait plus de présence de l'éducation nationale et des entreprises et des personnes qui peuvent recruter aussi. Donc je fais un appel pour ces 2 journées-là. Mais concernant le projet Chacun sa vie, chacun sa réussite, et les jeunes qu'on accompagne et qui sont autistes, il y a une complications d'accompagnement du fait de leur particularité.
Oui.
Je tiens à préciser que l'autisme c'est un handicap, c'est pas une maladie.
Oui.
Hein, c'est important de le préciser parce que souvent on dit les autistes, c'est des fous. Non, non, on accompagne le handicap de l'autisme, on le soigne pas. L'autisme, ça ne soigne pas. Donc si ça ne soigne pas, ce n'est pas une maladie.
Oui.
Et ce n'est pas la faute de la mère aussi. Hein, des choses qu'on a souvent entendues. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient. On parle de TND de toute façon. Comment on accompagne l'autisme dans nos structures? On est un plateau technique où on a éducateur spécialisé, infirmière, on a neuropsychologue, psychiatre, et on est sur un accompagnement spécifique à leur particularité. Je prends un exemple concret. On a un jeune qu'on va évaluer sur une hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hypersensibilité? Par exemple, là, dernièrement, j'ai un exemple. La jeune fille ne serre pas la main. Pourquoi? Parce que si vous lui serrez la main, elle a l'impression qu'on lui serre la main toute la journée. Il y a cette pression sur la main et qui fait que des fois, elle est toujours en train de bouger sa main et c'est particulier. Ou alors, on a un besoin d'hypersensibilité où il faut qu'on puisse avoir beaucoup d'éclairage pour se sentir bien. On va chercher autre chose. Et tout ça, toutes ces particularités, on est obligé de les travailler pour permettre l'intégration de la personne. Dans la société.
Oui, c'est ça, c'est au travail d'orfèvre, hein, on en a parlé en tête, c'est que le TSA, en fait, il y en a autant qu'il y a de personnes. Voilà. Donc, ça demande faire du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. En paraphrasant ce qu'il y a sur votre site internet.
C'est exactement ça, hein, c'est vraiment, on est dans la particularité de l'accompagnement. Au même titre que quand on dit que oui, il ne faut pas mettre du son très fort parce que les autistes, ils ne supportent pas. Oui, mais il y en a, oui, ils ne vont pas supporter le son très fort. Il y en a qui peuvent aller sur un concert de métal, par exemple, qu'on évoquait, et ça ne va pas leur poser problème.
Oui, c'est ça,
mais le bruit de la montre à côté, qui va faire tic-tac, ça va être insupportable pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans le cousu humain. Il faut vraiment... Et là, on a des professionnels qui vont faire des évaluations fonctionnelles. Ils vont repérer toutes ces petites particularités-là, on va faire un projet d'accompagnement, ce qu'on appelle un projet personnalisé, pour travailler ça avec eux. Et suite à ça, il y a des objectifs pour pouvoir aussi faire des accompagnements à la socialisation.
Très bien.
Voilà ce qu'on peut faire sur ces accompagnements et sur ces dispositifs. Alors, il y a le SAMSA, bien entendu, qui fait des accompagnements à domicile. Et ensuite, on a l'accompagnement à la maison au quotidien sur toutes les tâches.
Oui, alors on parlait d'habitat partagé, hein, des gens qui vivent ensemble. Ça, c'est une chose qui nous intéresse pas mal.
Alors, le SAMSA, c'est le service qui est en amont et qui prépare les jeunes à rentrer dans des dispositifs. Et ensuite, quand on est dans la maison transitoire et qu'ils seront dans le campus, il y aura aussi l'objectif de les faire sortir. Et comment on les fait sortir? On a déjà un maillage territorial qui permet d'ouvrir des habitats partagés, qu'on appelle des habitats partagés, où il y aura 6 et 7 jeunes dans des habitats, où il y aura un plateau technique aussi, mais ça sera conçu différemment. Donc, notamment, on a un dispositif à Saint-Perdon qui va ouvrir normalement en 2027, où on va accueillir 6 jeunes autistes. Voilà, c'est en colocation. Ça veut dire qu'ils sont chez eux. Hein, c'est plus un établissement médico-social.
Oui, il y a une part d'indépendance quand même.
Voilà, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on les accompagne dans leur quotidien. Et ensuite, on a un autre dispositif qui ouvrira à peu près sur la même période. C'est un dispositif d'habitat partagé à Morsinx.
Voilà.
Colocadi.
Voilà.
Voilà, que vous avez accueilli, je crois, dernièrement.
Et oui.
Et là, on est sur un accueil de 7 jeunes. Voilà. Aussi. Donc ça va nous permettre aussi, une fois qu'on aura fait les apprentissages sur la maison transitoire et sur le campus, de pouvoir les orienter vers ce type de dispositif-là.
Bien sûr. Voilà. Alors, Colocadi, c'est l'occasion d'en parler. On a fait l'émission en avril avec Nathalie et Carla. Et donc, c'était vraiment leur projet pour... ben voilà, que leurs enfants aient aussi un avenir et pas juste être dans un foyer, qu'à un moment donné, qu'ils aient leur vie à eux, sachant qu'en plus, en pensant au fait qu'elles ne seraient pas tout le temps là, elles, voilà, c'est comme ça que se passe la transmission, les générations. Et donc voilà, c'était un projet vraiment, elles se battaient beaucoup. Et ça me fait très plaisir d'en entendre parler, de la continuation de ce projet, de la concrétisation de ce projet. Qui semble être quand même un modèle entre guillemets de société qu'il va falloir adopter globalement. Hein. Oui. On a parlé des colloques 55, on a parlé aux antennes avec nos invités là de voilà, c'est l'habitat partagé, voilà, de que d'être seul c'est bien quand on l'a choisi, voilà. Sinon on le subit. Oui. Et on vit dans une société voilà, qui des fois met les distances entre les gens, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Je ne dirais pas que c'était mieux avant, je ne le dirai pas, je le dis, merde. Bon. Mais bon, c'est vrai qu'en fin de compte, on revient un peu vers ça, parce que les gens en ont besoin.
Alors, Colocadi, hein, c'est un bon exemple, parce que c'est, à l'origine, c'est des mamans hein, qui sont concernées, oui. Et qui vont monter un collectif de familles, et qui font bouger les choses.
Oui, quoi. Voilà,
à un moment
c'est
donné,
ça.
C'est important aussi de créer un collectif et de pouvoir faire un petit peu... oui, défoncer un peu les portes pour que ça bouge, quoi, parce que sinon, des fois, on reste avec nos situations. Mmh. Et effectivement, ensuite, les familles, parce que l'autisme, quand même, c'est spécialisé, c'est un accompagnement spécialisé. Et donc, il faut des professionnels. Et les mamans sont des fois démunies par rapport à toutes ces particularités et cette technicité d'accompagnement. Mmh. Et effectivement, Colocadi est venu chercher notamment le gestionnaire de l'AGI, par rapport à sa technicité. Mmh. Et c'est là où on va coupler les deux, cette bienveillance qu'on peut avoir dans les établissements, mais aussi la bienveillance de la famille qui est là pour justement que tout se passe bien dans ces habitats partagés, quoi.
Oui, bien sûr. On va faire une très courte pause et puis on va atteindre la dernière partie de cette émission pour la conclusion. À tout de suite. Et oui, c'était Louane qu'à venir, parce que c'est un mot qui est important dans l'émission, parce que le but du jeu, c'est pas les gens qui ont un problème, on les parque dans un truc, on les met de côté, on les oublie, hein, comme on met la poussière sous le tapis. C'est que ces gens ils puissent avoir une chance de se réintégrer dans la manière qu'ils peuvent avoir, hein, dans la société, de vivre dans un endroit, chez eux, d'avoir peut-être aussi un emploi, voilà. Donc c'est ça, c'est la société, il faut qu'elle prenne en charge ces gens-là, et pour leur aider à avoir une chance d'avoir une vie, entre guillemets, normale, entre guillemets.
De citoyen.
Voilà, c'est ça, voilà. Donc on parlait un petit peu en antenne d'inauguration, parce qu'on a parlé de lieux, donc il y a des, vous voyez que ça bouge, ça évolue tout ça.
Oui, oui, alors très rapidement, on parlait des habitats partagés, donc sur Saint-Perdon, effectivement, le projet avance vite, le projet architectural avance vite, et on envisage notamment peut-être la pose de la première pierre environ dans le mois d'octobre, en tous les cas. C'est important parce que ça veut dire que ça va être médiatisé. Et le fait que ça soit médiatisé, ça veut dire que les personnes vont entendre qu'il va y avoir des places qui vont se créer. Mmh. Et donc, notamment des commissions d'admissibilité et tout ça. Donc, ça va peut-être avoir un impact sur le territoire landais. Oui. Au même titre qu'on aura la même chose ensuite sur l'habitat partagé de Colocadi à Morsinx.
J'ai du mal à imaginer qu'il reste des places à un moment donné. Enfin, genre, il y a plus de files d'attente que... Non, pour des trucs comme ça, j'imagine.
Oui, mais il faut qu'ils puissent savoir qu'il y a des places qui vont se créer.
Oui,
parce qu'aujourd'hui, on va interpeller les établissements qui existent. Et c'est vrai que sur tous les établissements, il y a des listes d'attente incommensurables.
Oui, c'est comme la maison Alzheimer ici, etc. Il y a des dispositifs qui sont tellement, entre guillemets, super, bien, vraiment utiles, fonctionnels, que... on aimerait envie que tout le monde puisse en bénéficier.
Oui. Les dispositifs spécifiques, c'est toujours difficile.
C'est compliqué. Mmh. Voilà, c'est heureusement qu'il y a des gens comme vous qui sont là pour faire, pour se battre pour ça, pour faire que des gens puissent avoir des une deuxième chance dans la vie, qui leur a pas donné un cadeau au départ, mais il n'y a pas de raison. C'est la solidarité.
Les acteurs associatifs, mais on peut aussi s'estimer, je pense, et Marc, j'imagine, ne me contredira pas, je pense qu'on peut s'estimer chanceux d'être aussi dans le département des Landes avec des volontés politiques fortes en destination des personnes fragiles et en situation de vulnérabilité. Avec le conseil départemental, l'ARS, qui porte des projets, qui permettent d'accompagner et qui financent. Donc c'est important.
C'est vrai. Ouais. Puis c'est historique, ben, je dirais. On parle de, souvent de Monsieur Emmanueli à un moment donné.
Bien sûr. Hein oui, bien sûr.
Donc c'est quand même historique dans les Landes.
Il y a une
même...
continuité.
Mais il y a une continuité.
Et oui, oui, c'est... Bon, ça...
Et sans oublier la MLPH. C'est la MLPH, c'est la maison départementale de la personne handicapée. C'est un guichet unique qui oriente vers les établissements. Et c'est vrai que quand on est dans des structures d'innovation comme ça, elle nous permet des orientations plus faciles, plus de souplesse qui nous permet, nous, acteurs de terrain, d'avoir plus de facilité à accompagner. Ça aussi, c'est quand même une particularité dans les Landes de travailler avec cette souplesse-là.
D'accord. Bon, monsieur, on va se... encore quelque chose à dire. Un agenda rapide avant qu'on se sépare.
Juste pour la maison des adolescents. Donc, on est présent sur Internet, sur mda40.fr et aussi sur les réseaux Instagram, sur LinkedIn. Voilà, on a une présence et aussi sur Facebook.
Le plus proche ici, c'est quoi? C'est Tyros?
Ah, ici, c'est Dax.
Il y a un à Dax aussi. Bon, voilà.
On double la permanence à Dax du fait du besoin.
Très bien. Eh bien, messieurs, merci beaucoup d'être venus présenter.
Merci à vous de nous avoir invités.
Tout ce que vous faites, hein, parce que je crois qu'on a dû se rendre compte du travail que ça représentait. Voilà, votre investissement. Et merci beaucoup de tout ce que vous faites pour le bien-être d'une grande partie de la société. Merci beaucoup et bon retour. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.